esprit des lieux. Une émission de Toufik Hakem.
C'est sans doute le plus grand jardin botanique d'Afrique et probablement le plus beau. Dans ce numéro d'Esprit des lieux, je vous emmène au jardin d'essai d'Alger. Bonsoir à toutes et à tous. Considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde, le jardin d'essai du Hama à Alger a été voulu et conçu par les militaires français en 1832, c'est-à-dire moins de 2 ans après la colonisation du pays. Ce jardin botanique qui a inspiré tant d'écrivains, d'artistes, de philosophes, ce sont des Algérois qui vont nous raconter son histoire et son territoire, sa faune et sa flore, ses légendes et ses œuvres d'art. Ancien professeur de sciences naturelles, notre guide a eu la chance inouïe, à la fin de sa carrière, de trouver un poste au jardin d'essai. C'est donc en sa sympathique compagnie et par une belle journée de printemps que je retourne dans ce lieu intimement lié à mon enfance.
La superficie du jardin, c'est 32 hectares et demi. Mais durant la période coloniale, donc la superficie exacte atteinte, elle a dépassé les 80 hectares, mais tout ça, ça a été au détriment du patrimoine du jardin d'essai du Hama. C'est M. Bouabesh Abdelouhab, cadre technique au niveau du jardin d'essai du Hama, qui s'intéresse à l'histoire du jardin.
Là, c'est une des allées centrales.
C'est l'allée des Fécus, la somptueuse allée des Fécus, conçue en 1867.
Vous qui connaissez bien le jardin d'essai, quel est votre coin préféré ?
L'été, moi je préfère le jardin anglais parce qu'il est ombragé et nous procure une certaine fraîcheur. Le jardin français, effectivement, il a ses avantages, mais surtout la matinée parce que c'est un jardin qui est bien ouvert.
Il donne sur la mer.
Effectivement, avec une très belle perspective qui n'est délimitée que par l'horizon de la Méditerranée.
Quelle diversité d'arbres dans les jardins d'Alger. Thym maritime, ficus aux feuilles caoutchoutées, palmiers hauts et souples, araucaria géométrique.
Mon père nous y a amenés quand nous sommes arrivés à Alger, j'avais 9 ans. Et on traversait les milliers d'années.
Hélène Sixou.
En même temps, il se trouve avoir eu ce nom merveilleux, qui a l'air d'être une fiction, mais qui est son vrai nom, le jardin d'essai. Et quand j'avais 9 ans, justement, je pensais que c'était un jardin qui essayait aussi les noms, qui s'essayait des noms comme on essayait des espèces. C'est à la fois un jardin de totalement de textes, de tentatives de faire pousser des mots avec des mots, de croiser, de faire des hybrides. J'ai pas du tout imaginé, par exemple, que c'était un jardin botanique, ça s'appelle comme ça dans les autres pays. J'ai pensé que c'était un jardin d'esprit. Et je crois qu'il l'est encore.
Comme sous l'équateur, les bananiers déploient leurs feuilles soyeuses. De sa pointe à sa base, le cyprès est une grande flamme noire, dont la gravité s'atténue des bleus délicats du plombago qui, en été, l'envahit presque. De tous les points du globe sont venus ces arbres. Des îles Fidji, ces palmiers.
Ce jardin, tout le monde le connaît à Alger. Hein. Tous les Algérois le connaissent depuis toujours. Ils s'y promènent en famille, seuls, en couple. On voit bien qu'il y a beaucoup de couples. Donc c'est un lieu qui appartient aux Algérois.
Sofiane Hadjadj, éditeur.
Mais ce qui m'a intrigué aussi, en essayant de réfléchir sur ce lieu, c'est de se dire au fond quelle est l'histoire de ce jardin. Et en fouillant un peu dans cette histoire, je me suis rendu compte que ce jardin a été institué et créé par décret le 30 décembre 1832, c'est-à-dire à peine un an et demi après la colonisation, qui est en juin-juillet 1830, d'où le nom jardin d'essai. On va expérimenter, on va tenter de croiser des espèces pour, en vue de reproduire des espèces pour planter des arbres. Planter des arbres, c'est prendre possession d'un lieu, d'un terrain, d'un site, d'une géographie, d'une terre. Et donc, c'est ça qui a présidé à l'origine à la création du jardin. dans ce site même, El Hamma, qui à l'époque était dit El Hamma, qui était plus ou moins des marais, plus ou moins des terres en friche, qui était la banlieue d'Alger. Il n'y avait rien ici en 1830. Le cœur d'Alger était plus haut, vers la Casbah, et tout le reste d'Alger, c'était de la campagne. Donc on était vraiment déjà dans la campagne. Et donc la création de ce site, donc, qui bénéficie d'une situation assez privilégiée par rapport au vent, par rapport aux températures, etc., fait que c'était un lieu idéal. Donc les militaires français créent ce site, et puis au fil des années, ça va s'agrandir. Et puis à un moment donné, ce jardin va tellement s'agrandir qu'on a eu l'idée d'en faire un lieu d'agrément. On passe d'un endroit, d'un lieu qui était simplement un lieu d'expérimentation, un jardin d'essai, pour devenir un lieu d'agrément, un lieu de célébration, un lieu de promenade, puisqu'à un moment donné, la conquête coloniale, la colonisation, va être aussi une colonisation de peuplement, puisqu'il va y avoir des populations qui vont s'installer dans les grandes villes, et principalement à Alger. Et quand on installe des populations, bon, on a besoin de lieux, d'espace, de divertissement, de promenade, de sortie. Et le jardin va faire office de double fonction à partir de là. Une date aussi importante, c'est 1867, quand est nommé l'ingénieur Auguste Hardy. Il va quadriller lui aussi le jardin, il va le développer par section. Il y aura le jardin dit à la française, qui est la grande tradition paysagiste française. Il y aura une partie de jardin à l'anglaise aussi, il y aura une partie de jardin de bambou, il y aura la création d'une école d'horticulture, et puis ensuite en 1900 la création d'un jardin zoologique, d'un parc zoologique pour animaux. Donc vraiment le jardin devient autre chose. Il devient un lieu d'agrément, un lieu de promenade, et il devient surtout une vitrine exceptionnelle pour la colonisation, et qui va trouver, je dirais, son point de réalisation optimum en 1930, le centenaire de la colonisation, et l'achèvement, quasi-achèvement du jardin qui ne va plus bouger depuis. Depuis 1930, il n'a quasiment plus bougé, avec la création donc de la grande promenade centrale, avec les grands bassins, les grands jets d'eau, la double rangée de palmiers, véritablement la colonisation qui se célèbre, et qui célèbre un lieu de magnificence, un lieu d'accomplissement, je dirais, de la colonisation.
Que faire des statues glorifiant la conquête de l'Algérie? Que faire d'un héritage colonial? Les Algérois se sont bien sûr posé ces questions au lendemain de l'indépendance du pays. Pour autant, toutes les statues du jardin d'essai n'ont pas été déboulonnées. La baigneuse du sculpteur Georges Biguet est toujours là et a connu moultes aventures et mésaventures. D'autres statues ont été adoptées par les Algérois, celles qui rendent hommage aux cultures algériennes.
La famille algérienne, la grand-mère, le grand-père, la maman, les enfants viennent en groupe.
Et un autre rituel au jardin d'essai consiste à se prendre en photo à côté d'une statue qui représente des femmes algériennes en tenue de fête, de préférence en imitant les jeux de main et les gestes des femmes représentées.
Là, on est devant les danseuses de Ouled Neil, c'est les deux statues représentant les femmes de Ouled Neil, présentant la danse de Ouled Neil, la joie des femmes lors des célébrations, lorsqu'elles célèbrent les fêtes, les mariages. Ce chef-d'œuvre est le fruit d'un sculpteur, Émile Gaudissart, qui est né en Algérie. Donc il a été très honnête en sculptant la femme algérienne, en prenant comme modèle la femme de Ouled Neil.
C'est une tribu, mais elle se trouve où géographiquement en Algérie?
Le sud-est du pays.
Alors ce parc, d'abord, il date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
L'architecte Halim Faidi.
Chacun des jardins dépendait de la flore elle-même qui était importée d'un endroit ou un autre. Évidemment, c'était une représentation de tout ce que pouvait faire l'ingénierie botanique de l'époque, mais ce sont des botanistes européens qui sont vraiment venus dans ce territoire de toutes les possibilités botaniques. De la même manière que les colons se sont implantés en Algérie en allant chercher des conditions qui sont semblables à leurs conditions d'origine, eh bien, les plantes se sont installées également selon les possibilités. C'est-à-dire, s'il y a un jardin français, c'est qu'il est composé aussi avec les mêmes plantes que vous retrouverez dans les jardins français de Versailles ou ou des grands châteaux du 17, 18e, 19e siècle en Europe. Et puis si vous avez un baobab, c'est parce qu'il a pu s'adapter. Et voilà, il est posé dans un endroit où il y a de l'eau. Je pense que chaque groupe d'essence est placé selon les conditions du design qu'on allait en faire derrière. Mais si je devais faire un classement de tout ça, je crois que les deux endroits où on traînait le plus, c'était l'allée des platanes et le baobab de Tarzan. Mais parce qu'il y avait la bande dessinée derrière, il y avait le film derrière, tout cet imaginaire d'enfant.
Quand on va au Jardin d'essai, un des passages obligés est bien entendu l'arbre de Tarzan. Car oui, ce n'est finalement pas une légende. Le jardin a servi de décor au film Tarzan en singe, tourné en 1932. L'arbre de Tarzan, c'est l'imposant dragonnier où Johnny Tarzan Westmuller pousse son célèbre cri avant de sauver Jane. Il existe toujours cet arbre.
On est en train de se diriger directement vers le majestueux arbre de Tarzan, sans oublier que sur notre chemin, on va parcourir le carré des cycas. Ça ressemble aux palmiers, mais ce ne sont pas des palmiers.
Ça vient d'où ?
Donc, d'Asie, plus précisément, c'est le Japon. Cycas revoluta. Oblur al-arabia, le nakhil malaki.
Le palmier royal ?
Le palmier royal, voilà, nakhil malaki.
Et nous arrivons au niveau de l'arbre de Tarzan, et là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Tout le monde veut s'accrocher aux lianes, c'est ça?
Effectivement, il y a des gens, même adultes, qui veulent imiter le fameux Johnny Westmuller. C'est l'acteur qui a tourné les premières séquences sur ces lianes. Quand je parle de lianes, c'est des racines aériennes pendues du haut des branches de ce ficus.
Il est très beau ce ficus. Hein.
Ah, il est très beau, une très belle envergure, surtout lorsqu'il est tout près d'un bassin étang. Donc ouais. Il est bien alimenté par les eaux.
En tout cas, on peut jouer à Tarzan comme les enfants, mais si on tombe dans la mare, une mare aux canards d'ailleurs, il y a plein de canards.
Voilà. Quand on parle de jardin, on est en train de parler aussi des eaux souterraines. Des nappes qui parcourent le sous-sol du jardin. Donc c'est un bassin pour capter les eaux et essayer de les drainer par des segia, comme vous êtes en train de voir. Segia, c'est en arabe, segia, c'est des rigoles conçues pour canaliser les eaux et essayer de les ramener aux différents points qu'on veut irriguer. C'est une segia.
Oh, regardez! Ça, c'est somptueux. C'est des palmiers géants.
C'est les Washingtonia robusta. C'est la jupe, ce qu'on est en train de voir, des palmes séchées qui forment une jupe permettant aux oiseaux de passer la nuit à l'intérieur de la jupe. C'est un abri pour les oiseaux, surtout la nuit et les périodes là où il fait très froid et où il pleut.
Ici, on a l'impression qu'on est carrément dans une forêt. On peut rester là, on peut se cacher, on peut se réfugier et passer la nuit.
Il y a du gardiennage, il y a de l'anti-intrusion. En termes de sécurité, c'est comme ça qu'on qualifie.
L'anti-intrusion.
Voilà, l'anti-intrusion. Voilà.
Pourtant, ça doit être agréable de passer une nuit au Jardin d'essai.
Effectivement, mais il est considéré comme étant un jardin botanique. Donc là où il faut laisser les espèces se reposer. Animal ou végétal. Donc même les espèces animales et végétales ont besoin de se reposer comme l'humain. Voilà. Effectivement, donc il y a du calme, mais on ne va pas s'aventurer à laisser les gens passer la nuit dans un jardin pareil.
Non, non, mais je vous posais cette question. Est-ce que vous, ça vous a jamais traversé l'esprit ?
Ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que je suis un Gigilien de Gigel. Qui, lorsque veut passer une très belle nuit, moi j'habite la campagne, les montagnes de Gigel. Lors des vacances, je passe mes vacances là-bas et j'apprécie la forêt.
À la belle étoile ?
À la belle étoile.
Où l'on apprend, des années plus tard, qu'un ami d'enfance a réalisé votre rêve d'enfant. passé une nuit au jardin d'essai en déjouant la vigilance des gardiens et de leur dispositif anti-intrusion. Halim Faidi.
Alors très jeune, j'avais des cousins qui habitaient le jardin d'essai, dont le papa était fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et qui avait un logement de fonction. J'allais très souvent visiter mes cousins et à partir de 18h jusqu'à 8h du matin, eh bien, ce magnifique parc botanique était à nous. Moi j'ai grandi dans cet environnement où il y avait pratiquement toutes les espèces végétales qu'on pouvait trouver dans le monde, ou presque, puisque le jardin d'essai est une espèce d'adaptation de toutes les essences que pouvait ramener l'empire colonial français de l'époque, de toutes les terres qu'il maîtrisait, pour les adapter dans un Alger où le climat, et l'hygrométrie particulièrement, c'est-à-dire cette humidité qu'il y a dans l'air, est très forte et quasi tropicale, et qui permettait donc à toutes ces essences de s'adapter d'Alger. Donc ce jardin d'essai botanique en réalité, était à notre portée, et donc je me retrouvais dans des environnements où je pouvais côtoyer un baobab, un magnolia, un cyprès, un pin des Pyrénées ou un pin maritime. Et donc c'est ce qui va plutôt structurer plus tard mon regard un peu universel de ce qu'est cette ville d'Alger, comme une espèce de laboratoire à la fois d'urbanisme, de botanique, de mixité biologique. On avait droit aussi à des champs d'oiseaux qu'on ne retrouvait pas ailleurs, qu'on ne retrouvait pas à la Casbah, où c'est plutôt la perruche, le chardonneret et le canari qui dominaient. Mais là, on avait vraiment il y avait quelque chose de la forêt qui était au jardin d'essai. Et là, j'ai appris vraiment, vraiment beaucoup de choses. Hein. Notamment, on faisait beaucoup de dressage de chiens. Il y avait un dresseur de chiens à l'intérieur. Donc je me souviens que mon amour pour les chiens aussi va démarrer au jardin d'essai. Puis bon, quand vous avez cet énorme parc, toutes les bêtises étaient permises et tout ce qu'il fallait apprendre en trébuchant, ça s'est fait beaucoup pour moi au jardin d'essai de l'Hamma.
Esprit des lieux, Toufik Hakem sur France Culture.
On est au jardin d'essai d'Alger, le fameux jardin d'essai, essai avec E majuscule. On est là dans la partie un peu sous les bambous, sur le côté de l'allée principale, l'allée centrale, là où il y a les grands bassins avec jets d'eau et là où il y a la rangée de magnifiques palmiers. Cette allée qui est une perspective qui ouvre sur la mer d'un côté et puis qui donne sur le musée des Beaux-Arts le musée des Beaux-Arts d'Alger et au-dessus le monument Maqam Shahid, le fameux Maqam Shahid. Donc on est vraiment au cœur du jardin. Ce jardin, c'est le poumon d'Alger. On est situé à l'est d'Alger, vers la sortie d'Alger vers l'est, dans le quartier donc de Belcourt, de Belouzdad, un quartier populaire avec à la lisière du jardin aussi dans sa limite est, on a le stade du 20 août. À la limite de l'autre côté, on a l'hôtel Sofitel et vers Alger Centre. On a la mer donc au nord et derrière, au sud, on a donc ce petit mont qui monte vers le Maqam Shahid et qui fait que cette situation du jardin d'essai, c'est une espèce de microclimat. Le jardin a été fermé en 1997. C'était le cœur des années de terrorisme, de violence politique. On l'a fermé pour des raisons de sécurité, évidemment. À ce moment-là, les raisons de sécurité primaient. J'imagine aussi pour des raisons d'entretien qui devenaient lourdes à porter. Aussi, dans ce moment-là, a eu lieu un certain nombre d'événements. On se souvient tous de la fameuse baigneuse qui avait disparu, qui est une des statues qui est plantée dans un bassin d'eau et qui avait disparu dans ces années-là, qu'on a retrouvé soi-disant dans le jardin d'un ministre à l'autre bout du pays. Enfin, toute une histoire aussi qui alimente un peu la légende de ce jardin et j'aime bien encore ces histoires-là. Donc le jardin ferme, il a fermé plus de 10 ans. Moi j'ai eu l'occasion de le visiter en 2003 exactement, un an après le tremblement de terre de Beaumerdès, et ça m'avait intéressé, et j'ai trouvé un jardin totalement à l'abandon. Mais quand je dis ça, c'est pas un abandon, je dirais, négatif, entre guillemets. Il y avait vraiment une très grande force et une très grande beauté, justement, dans cet abandon. Parce que c'est comme si le jardin, qui est un jardin très contrôlé, hein, c'est très dessiné, c'est des ingénieurs paysagistes qui font ça. C'est pas juste des jardiniers amateurs, je dirais. C'est quelque chose de très ordonné, très quadrillé. Il y a des îlots, des allées numérotées. Donc c'est l'école d'horticole, le jardin zoologique sont encadrés par des grilles. Il y a des fiches techniques pour chaque arbre. Et là, je l'ai trouvé dans un état d'abandon, tel qu'un jardin peut aussi s'abandonner à lui-même. C'est un lieu qui a été évoqué par bon nombre d'écrivains, des écrivains alors depuis, on va dire, Monterland, Gide a écrit sur ce site, Camus étant de Bellecour, étant dans ce quartier aussi. Mais on a aussi des gens qu'on connaît peut-être un peu moins et pour qui le jardin a beaucoup compté. Moi, je pense surtout à Hélène Cixous, par exemple, et à Jacques Derrida, donc deux grands amis. Hélène Cixous n'étant pas algéroise à l'origine, elle est d'Oran, Derrida étant un pur algérois, pour le coup, d'El Biar, et qui, dans leurs textes respectifs et dans une partie de leur correspondance, parlent beaucoup de ce jardin comme étant un lieu pour eux, le lieu de leur rencontre. Rencontre avec un grand R, mais c'est une rencontre évidemment intellectuelle, et leur grande amie, on connaît la grande amitié intellectuelle au sens fort du terme entre Jacques Derrida et Hélène Cixous. Et Hélène Cixous évoque beaucoup ce lieu, hein, notamment dans un vrai jardin, qui est un petit texte, et surtout dans Cyprès, le texte qu'elle a consacré à sa relation à Alger, et notamment à Zohra Drif aussi, sur lequel elle revient sur un certain nombre d'événements liés à Alger. Donc dans ce texte-là, elle parle aussi du jardin, et elle le magnifie. C'est pour elle, c'est un peu un jardin d'Éden, hein, c'est le jardin du paradis. Et pour bon nombre de gens, c'est cette figure aussi du jardin du paradis. Et ça, j'aime bien cette idée qu'un jardin créé à l'origine comme un lieu d'expérimentation en vue d'une problématique coloniale guerrière, bah devienne un jardin mythique, un jardin d'Éden, un jardin du paradis.
Je ne voulais pas aller à Alger, et ainsi je conservais intacte la beauté idéale du jardin d'essai, telle qu'elle avait été inventée par mon ami Jacques Derrida. J'espérais ne pas aller à Alger assez longtemps et ainsi pouvoir garder le jardin d'essai comme réédition sur la terre du paradis et comme paradis personnel unique et destinal en tant que ce jardin des essais littéraires tenté par l'un et par l'autre.
Bonjour Hélène Cixous.
Bonjour.
Pourquoi le jardin d'essai ?
Le jardin d'essai, je crois que quand on a été au jardin d'essai, surtout enfant, ce qui a été mon cas et son cas, on a été quand même dans un des jardins botaniques les plus beaux au monde, et peut-être le plus beau. J'en ai vu d'autres, hein. J'en ai vu en Californie, etc. Et il est si beau dans son tracé qu'en même temps, il est une œuvre d'art, vraiment.
Bien évidemment que c'est le parc des amoureux, quand vous voyez la beauté de ce parc et le romantisme qu'il dégage, les perspectives dessinées. Mais ça a toujours été le parc des amoureux. Mais je crois que tous les parcs d'Alger, hein, ont été des parcs d'amoureux. En fait, quand je dis les parcs d'Alger, je les désigne comme étant les enfants du jardin d'essai, puisque la plupart des grands parcs d'Alger, les essences sont issues et sont nées au jardin d'essai. C'est une formidable pépinière de propagation en réalité, hein.
À l'indépendance de l'Algérie, ce jardin n'a pas bougé, quasiment pas du tout, même dans ses frontières, dans ses limites géographiques, dans son territoire. Il est resté intégré au quartier de Belouizdad, au quartier d'El-Hamma, au quartier de Bellecour. Donc tout ça fait que c'est un quartier assez populaire tout de même, qui va être alors là totalement aussi apprivoisé par les Algérois dans les années 60, 70, 80, apprivoisé, occupé, exploité, je dirais, lieu de promenade pour les familles, pour les couples évidemment, parce qu'on a plein de petits endroits dans ce jardin, de sous-bois, de petits lieux discrets, intimes, pour les couples, quand on sait la difficulté pour les couples à Alger de se retrouver. Donc je dirais que cette histoire qui m'a intéressé, l'histoire coloniale, l'histoire de la création du jardin, qui date strictement avec la colonisation, bah cette histoire s'est fondue dans l'histoire de la population algéroise. Et c'est au fond toujours la même leçon, qu'est-ce qu'on fait d'un héritage colonial ? Eh bien, un héritage comme celui-ci a été parfaitement intégré dans l'histoire.
Et notre journée au Jardin d'essai s'achève dans son petit parc zoologique créé en 1900 au milieu d'une marée d'enfants et en compagnie d'Abdelwahab Bouhabesh.
On est en train de peiner pour trouver un chemin dans le couloir des félins. Voilà, les grands félins. C'est la lionne d'Afrique. C'est le tigre blanc, fameux tigre blanc, le tigre de Bengale est derrière le bassin. La panthère, panthère à panthère. Le couloir des oiseaux, juste après le couloir des félins. Nous sommes en face le canari. Le chardonneret élégant, le maknin. Les trois espèces de gazelles qui prospèrent bien en Algérie, surtout le sud et la steppe du pays, qui sont listées en voie de disparition ou d'extinction. Donc on est en train de parler de la gazelle d'Orcas, la gazelle cuvier et Leptosperos. C'est notre singerie avec le fameux macaque ou le singe mako qui est une espèce endémique. Le macaque, on peut le trouver à Cheffa, Médéa, dans les montagnes de l'Algérie. Il est très agile, c'est un animal grégaire. Quand je dis grégaire, c'est un animal qui vit en famille. C'est un parfait herbivore.
Voilà. Pourtant là, on voit quand même les visiteurs lui envoyer du pain, des boules...
De la mandarine.
Et de la mandarine.
Bien que c'est interdit, mais les visiteurs prennent, surtout les enfants, prennent du plaisir à présenter de l'alimentation aux animaux.
Esprit des lieux. Au Jardin d'essai d'Alger, le poumon et la mémoire d'Alger... avec Abdelwahab Bouhabesh.
Vous êtes le bienvenu tout le temps, avec votre micro, même sans votre micro, vous êtes le bienvenu ici au niveau du Jardin d'essai.
Halim Faidi, architecte, Sofiane Hadjadj, éditeur, et Hélène Siksou, écrivaine. Merci à Yacine Bouaziz de Tel Afin pour son aide précieuse. Coordination, Marceau Vassy, prise de son, Timothée Hubert, mixage Manon Houssin, réalisation Vincent Abouchard.
Esprit des lieux, Tofik Hakem, à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Thank you.